Nous sommes à l'époque des sondages d'opinion. Il y en a tout le temps et surtout. Des produits cosmétiques, des choses à vendre. Je ne parle même pas des sondages électoraux. Alors, en période électorale, là, ça y va jusqu'à plus soif. On cherche à savoir ce que pensent les gens dans une attention bien particulière. Un candidat à une élection électorale, il veut savoir ce que les gens veulent entendre pour pouvoir leur dire, comme ça il aura des voix. Très habile. Mais, bon. Alors, la question se pose. Jésus se livrerait-il à un sondage d'opinion ? Au dire des gens, qui suis-je ? Cherche-t-il à savoir ce que les gens pensent de lui ? Il le sait déjà. Et à vrai dire, ce n'est pas tellement son problème. Il ne s'occupe pas de savoir ce que les gens pensent de lui. Ça n'a pas d'importance. Pour lui, l'important, c'est transmettre la vérité sur son Père, transmettre la vérité sur l'homme, que l'homme, que les hommes, que ceux qui l'entendent l'accueillent, non. Peu importe sa personne. Et il le montrera évidemment à la perfection, sur la croix. Donc il ne s'agit évidemment pas d'un sondage d'opinion. Et lorsqu'il pose la question aux apôtres « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?», il ne cherche pas d'abord, de la même façon, il ne cherche pas à savoir ce qu'il pense. Il le sait déjà, lui qui connaît le fond des cœurs. Ce n'est pas pour apprendre quelque chose qu'il pose des questions. C'est pour nous apprendre quelque chose. Et c'est bien différent. Pour ses apôtres, pour ses disciples qui l'écoutent, il veut faire naître en eux le désir de le connaître vraiment, par expérience et non pas par une connaissance extérieure, celle qu'on aurait par le catéchisme ou encore moins par un sondage d'opinion. Et en réalité, nous voyons là un aspect de la pédagogie divine. Le Christ ne pose pas la question parce que lui aurait besoin de connaître la réponse. Il pose la question pour nous apprendre à poser les bonnes questions. C'est tout différent. Ce sont les disciples qui ont besoin de savoir quelles questions il faut poser. C'est nous qui avons besoin de savoir quelles questions il nous faut nous poser. Jésus se fait ici pédagogue. Cette question est des plus fondamentales. Pour les apôtres, pour vous, pour moi, qui est Jésus-Christ dans notre vie concrète, dans la réalité, dans notre quotidien? Qui est-il? Ça vaut le coup de temps en temps de se poser cette question, car elle est fondamentale. Alors nous le savons, il y a bien sûr les réponses du catéchisme, celles qu'on apprend par cœur, celles que on apprend à l'Église, qu'on peut éventuellement réciter comme on réciterait une leçon d'histoire ou une récitation en français. Ces réponses touchent notre intelligence, et il le faut, notre intelligence a besoin d'être éclairée. Mais touchent-elles notre cœur? Changent-elles notre cœur? C'est une autre histoire. On peut connaître parfaitement son catéchisme, on peut être un grand théologien, mais vivre comme un païen loin de Dieu et même contre Dieu. Satan connaît parfaitement le catéchisme. Eh oui, il connaît mieux que nous le catéchisme. Et c'est Satan. De même aussi que l'on peut, à l'inverse, ne pas connaître grand-chose du catéchisme et avoir une foi vivante qui oriente notre vie, qui la modèle, qui nous guide vers le Christ, qui nous ancre dans la personne du Christ. Le catalogue des saints en est rempli, de ces saints qui, Quand on demandait à Jeanne d'Arc « Que connaissez-vous de votre catéchisme ?» Eh bien, j'ai appris sur les genoux de ma mère le pater, l'ave et le credo. Voilà, c'était son catéchisme à elle. Et c'était Sainte Jeanne d'Arc qui en a remontré au grand théologien de la Sorbonne pendant son procès, et tant d'autres comme elle. André Frossard en a fait l'expérience dans sa conversion. Athée, fils d'athée, au début du XXe siècle, pour lui, la religion catholique n'est qu'une fable pour vieille grand-mère, donc elle ne tardera pas à mourir avec les grand-mères. Mais un jour, par pure curiosité, parce qu'il n'avait du temps, et bien entendu guidé par l'Esprit-Saint, mais ça, il ne le savait pas encore, il entre dans une église. Et là, il y avait une adoration du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement était exposé sur l'autel avec des fidèles priant dans le silence. Il se met au fond de l'église, derrière un pilier, et soudain, il tombe à genoux. Il croit. Il croit fermement. Il croit sans hésitation que Dieu existe et que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, qu'il est notre Sauveur et qu'il est présent dans cette hostie. Il croit et plus rien ne peut l'empêcher de croire. Ça lui est tombé dessus comme ça. Grâce de Dieu. Et en ressortant, il n'est plus le même. Et l'ami avec qui il se promenait, qui l'attendait dehors, lui dit « Tu n'es plus le même ». Et Frossard explique « J'avais la foi, il ne me restait plus qu'à l'apprendre. » Il ne connaissait rien de son catéchisme, pas plus après qu'avant être rentré dans cette église. Il avait tout à apprendre, mais il avait la foi. Il était certain de l'existence du Christ, de sa mission, de son salut, de sa présence dans l'Eucharistie. Nous voyons donc que la connaissance intellectuelle, pour importante qu'elle soit, ne suffit pas à avoir la foi. Il la faut, mais elle ne suffit pas. Elle est là pour orienter après notre volonté, notre cœur, notre charité. Dans l'Évangile, les apôtres donnent deux réponses à deux questions différentes, celle des autres et la leur. Entre ces deux réponses, un saut abyssal, la conversion. Pour répondre à la première question, il leur suffisait d'écouter ce qui se disait autour d'eux. Pour la seconde, pour vous, qui suis-je, chacun doit regarder en soi-même. Qui est Jésus pour moi, dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut changer dans ma vie? C'est tout à fait autre chose. On n'est plus dans les spéculations, si juste et si vraie soit-elle. Là, on est dans le vécu, l'existentiel. Et cette réponse de Pierre, Jésus lui dit, elle ne vient ni de la chair, ni du sang, ni de ta culture, ni de ce que tu as appris, ni de tes habitudes. Elle vient du Père. Elle vient du Père. Elle vient d'en haut. Et Jésus va le marquer, va bien manifester cette première conversion de Pierre par deux signes. Tout d'abord, il fait ressortir la stabilité, la solidité de la foi, de l'acte de foi que Pierre vient de poser. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le deuxième signe, il donne un nouveau nom à Pierre. Simon, fils de Jonas. Et après, c'est « Tu es Pierre ». Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le nom, nous le savons, dans la Bible désigne la personne, ce qu'il est et sa mission. Pierre n'est plus le Simon d'avant. Et sa mission est nouvelle. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il sera la fondation humaine de l'Église. Alors certes, il faudra encore qu'il fasse l'expérience douloureuse de sa faiblesse naturelle. Sa nature n'a pas changé, toujours aussi fougueux, toujours aussi sanguin. Et il faudra qu'il en fasse la douloureuse expérience pour rester ancré dans la personne du Christ, pour manifester que la foi n'est pas d'ordre ni intellectuel ni naturel, mais un don de Dieu qui ne demande qu'à grandir. Il lui faudra encore la peu glorieuse chute du triple reniement, mais aussi le regard croisé avec le Christ pour le regret, pour comprendre que s'il est pierre et que sur cette pierre Jésus bâtira son Église, ça n'est que en lien avec la personne du Christ, que le fruit de sa foi et non pas d'efforts personnels. Et la Pentecôte enfin qui déploiera toutes les puissances de ce lien personnel avec le Christ. Mais à cet instant de l'évangile de ce matin, la vie de Pierre a basculé. Il est devenu témoin, ancré dans le Christ, par l'acte de foi qu'il vient de proclamer. Et revenons aux questions de Jésus. Elles se déroulent en deux temps. Qui est-il, d'après ce que disent les hommes, et qui est-il pour vous ? Jésus ne permet pas à ses disciples de se retrancher derrière les opinions des autres. Notre foi, pour être vraie, pour être authentique, ne peut qu'être une foi de conviction. Et aujourd'hui particulièrement, après 20 siècles d'Église, l'histoire de l'Église, c'est d'autant plus important. Nous sommes à une époque où les persécutions continuent, plus encore que dans les tout premiers siècles de l'Église, et pourtant des martyrs au cirque de Rome, il en est passé. Aujourd'hui, la persécution continue, sanglante, subtile, elle continue. Et nous avons besoin, pour rester dans l'Église, d'affermir notre foi, notre acte de foi personnel, notre conviction personnelle. On ne peut plus se retrancher sur nos habitudes culturelles, sociales. Ça n'est pas la foi. Dire « je viens faire baptiser mon enfant parce que la grand-mère y tient ». Mais où est la foi là-dedans ? Alors on va les éduquer, bien sûr, on va leur apprendre, on les prend là où ils sont. Mais il faut les amener urgemment à une foi personnelle, à une foi de conviction, à une appartenance à l'Église qui ne soit plus l'habitude ou l'héritage reçu de nos parents, mais un choix personnel, libre, à la lumière et sous la grâce de Dieu. C'est par un choix librement consenti, quotidiennement renouvelé, avec la grâce de Dieu, que nous pouvons accueillir dans toutes ses dimensions ce grand don qui nous rattache à la personne du Christ. Et avec Jésus, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous l'avez déjà souligné, on ne choisit pas les vérités que Dieu nous donne à croire. On ne choisit pas les vérités qui guident notre vie, qu'elles soient d'ordre doctrinal ou moral. Il y a certaines structures métalliques importantes, et il me semble avoir entendu dire que la tour Eiffel est de ceux-là, qui sont ainsi faits que si on enlève un seul élément, tout s'écroule. Si on retire une poutrelle de la tour Eiffel, elle s'écroule. C'est pour ça qu'elle est sous très haute surveillance. technique. La foi est un édifice organique. On ne peut pas retirer un organe du corps sans que tout le corps n'en souffre. On le sait très bien. Même des organes dont on ne sait pas très très bien à quoi ils servent. Si on les retire comme ça, par coquetterie, il y a une époque comme ça où c'était une coquetterie de se faire retirer l'appendice. Aller chercher, savoir pourquoi. De toute façon, ça ne sert à rien, ce truc-là. Et bien, ils n'ont pas été loin à comprendre qu'il y avait une désorganisation de l'ensemble de l'organisme. Eh bien, la foi est à cette image-là en bien plus important, naturellement. On ne choisit pas les articles de foi auxquels on veut croire. Dans les sondages d'opinion, dans les promesses électorales, on peut choisir. Là, je suis d'accord avec lui, là, ce qu'il dit, c'est bien. Puis là, je suis d'accord avec lui. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. En matière politique, on peut se le permettre. Pas en matière de foi. C'est un tout organique. N'ayons pas cette mentalité mondaine des sondages. La connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité, l'attachement au Christ, c'est toute notre vie qui est prise. On ne peut modeler notre vie à cause de tel ou tel article du credo et pas l'autre. On ne peut pas modeler notre vie en fonction de tel commandement et pas l'autre. Il y aurait tromperie, illusion. La foi n'est pas un supermarché où on choisit sa marque de riz, de sucre, de lait, de je ne sais quoi encore. Et quand on va au supermarché, heureusement qu'on n'achète pas tout le magasin non plus. Mais dans le domaine commercial, bien sûr, pas dans le domaine de la foi. Nous ne sommes pas dans le monde. Là est la différence. Enfin, l'Évangile nous donne un indicateur qui nous permet non pas de mesurer notre foi. Laissons Dieu mesurer notre foi. Mais qui nous permet de nous stimuler dans notre foi. Selon la réponse que je vais donner à la question « Qui est Jésus pour moi ?», je pourrai savoir s'il y a illusion dans ma foi. La foi grandit quand on la donne, disait saint Jean-Paul II. Et pour qu'elle soit profonde et vraie, et pas seulement sincère, c'est différent. C'est dans le témoignage vivant, actif, qu'elle prendra sa dimension personnelle. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, dit saint Jacques. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Mes actes personnels dans ma vie morale, mais mes actes de charité dans la vie sociale. Dans la vie de l'Église, dans la vie de la société, dans la société familiale, partout. C'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Qui le connaît, qui connaît Jésus-Christ et ne témoigne pas de cette foi, peut réellement se poser la question, qu'en est-il de ma foi ? Dans une scène de l'œuvre dramatique de Paul Claudel, le père humilié, une enfant juive, très belle, mais aveugle, demande à son ami chrétien, « Vous qui voyez, je pense que cette question nous est posée, vous qui voyez, quelle utilisation avez-vous fait de la lumière ? » Tout est là.